Chapitre 14.
Qu'est-ce que tu as pensé de l'article du Sunday Times ? Demande Sébastien. Debout devant le plan de travail de la cuisine, un torchon jeté sur l'épaule, il hache du persil avec la dextérité d'un chef. À côté de lui se consume une cigarette posée en équilibre sur un cendrier. Bref, il fait comme chez lui. D'ailleurs, techniquement, il est chez lui. « Pas mal », répond sèchement Baker. Il a envie d'ajouter « À part ton monologue sur les peintures noires, tu n'as pas pu t'empêcher d'imputer des intentions à une artiste sur laquelle tu ne sais quasiment rien. » Mais il se retient. Il vient de faire 50 kilomètres aller-retour pour se rendre chez le caviste le plus proche et, en rentrant, il retrouve sa femme enceinte en train de rire et de boire du vin en compagnie de son ex-fiancé. Un ex-fiancé qui se trouve être à la fois le logeur et le patron de Baker, son seigneur et maître. Bref, il n'est pas dans les meilleures dispositions. « Moi, il m'a beaucoup plu cet article », commente Elena en arrosant de beurre fondu les filets de sol qui crépitent dans la poêle.
« Je croyais qu'on mangeait des steaks », s'étonne Baker.
Elena se tourne vers lui, un sourire aux lèvres. Quand il lui montre les deux bouteilles de Barbaresco qu'il vient d'acheter, elle fronce légèrement le nez.
« Oh, désolé, chérie, j'ai changé d'avis. Mais ne t'en fais pas, Seb a apporté du Chablis. »
Baker ouvre le réfrigérateur avec humeur, mais ni Sébastien ni Elena ne semblent y prêter attention. Il se sert un grand verre de vin blanc, le goûte et doit bien admettre qu'il est excellent. Il referme brusquement la porte. Cette fois, Elena s'en aperçoit et secoue discrètement la tête pour lui signifier de se calmer. Après ce qui s'est passé entre eux trois, ils ont conclu un accord tacite auquel ils se tiennent. Pour continuer à vivre et à travailler ensemble, pour rester amis, ils doivent se comporter de manière civilisée, en adulte. Les rancœurs et les blessures doivent demeurer enfouies jusqu'à ce qu'elles finissent par se décomposer. Telle est la théorie, en tout cas. Curieusement, c'est Baker qui semble le moins à l'aise avec leur petit triangle amoureux. Elena se montre indifférente. Peut-être qu'une vie à voir des hommes se déchirer pour son affection l'a rendue insensible à ce genre de tracas. Sébastien, le grand perdant de l'histoire, a encaissé l'affront sans broncher. Alors pourquoi Baker est-il incapable de passer à autre chose ?
Moi, cet article m'a beaucoup plu, répète Elena. Surtout quand on pense au lectorat auquel il est destiné. Tout le paragraphe sur les peintures noires était vraiment bien. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà ? Lugubre, sinistre ? Elle cultive le mystère, c'est très vendeur. Et tu as bien fait de parler de Julian, Seb. C'est le genre de choses qui pique la curiosité des gens.
Contrairement à mes explications sans intérêt sur l'art de l'assemblage, songe amèrement Baker. Mais il sait qu'Elena a raison. Le marketing n'est pas son point fort. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Pendant le dîner, il parle d'expositions à venir à Londres et d'un groupe qu'Elena veut aller voir en concert à Glasgow le mois prochain avec de vieux amis, des gens que Sébastien et elle côtoient depuis l'enfance. Il faut dire que leurs familles ont toujours été proches. La mère d'Elena était à l'école avec Emmeline. Sébastien se montre charmant. Baker s'efforce de rester poli et courtois. Assise entre les deux, Elena alterne entre le rôle de démineuse et celui de poseuse de bombes, tantôt désamorçant une situation tendue d'un geste de la main, tantôt mettant le feu aux poudres par un mot ou un simple regard. Quand la conversation dévie sur Emmeline, Elena pose la main sur celle de Sébastien.
« Évidemment qu'elle est incapable de t'en parler, Seb. Ce qui s'est passé est inconcevable. Et puis, les gens de sa génération et de son rang sont des taiseux. La vulnérabilité, ce n'est pas trop leur truc. » Pour toi, c'est différent.
Sébastien lui adresse un sourire plein d'affection et retire sa main au moment où Elena conclut
« Je pense que ça te ferait du bien d'aller voir quelqu'un. »
« Je ne suis pas sûr qu'elle apprécierait, » dit-il en secouant la tête avant de vider son verre de vin et de se tourner vers Baker.
« Et si tu nous parlais de la vilaine sorcière d'Eris, toi ? Tu ne m'as encore rien raconté. »
Comme Baker lève les yeux au ciel, Elena lui donne un petit coup de pied sous la table.
« Allez, Beck !» ajoute-t-elle. « On veut savoir, elle est comment ?»«
Gentille, un peu farouche. Je pense qu'elle se sent très seule, et la maison est en piteux état. On dirait qu'elle a été pillée. Honnêtement, j'ai eu de la peine pour cette femme. »
Dans la poche de son jean, il fait rouler entre ses doigts le caillou blanc qu'il a ramassé sur le rebord de la cheminée.
« On lui a déjà tellement pris. »«
Tu lui as parlé des œuvres manquantes ?»
demande Sébastien, pas ému pour un sou. Elena avait raison. De la glace dans les veines.
« Nous n'avons aucune preuve qu'il manque quoi que ce soit,
réplique Becker en remplissant son verre. Douglas prétendait que Vanessa lui avait promis certaines toiles pour une exposition. Mais comme cette exposition n'a jamais eu lieu,
il les a vues,
le coupe Sébastien.
Mon père est allé à Iris quelques mois avant la date prévue pour le vernissage, et il a vu les tableaux dans l'atelier de Vanessa, il me l'a dit. Et il a également vu la dizaine de céramiques qu'elle était censée lui envoyer. Tout était là,
insiste Sébastien en tapotant la table avec son index.
Dans l'atelier, prêt à être expédié. C'est en partie pour ça qu'il a été aussi surpris quand elle a annulé au dernier moment.
Elena ouvre la bouche, mais Sébastien lève la main.
Si Vanessa avait décidé de vendre directement les œuvres à des particuliers, on l'aurait su, on aurait retrouvé des traces. Cette piste n'est pas crédible.
Là-dessus, tu as tout à fait raison, acquiesce Becker. Cette piste n'est pas crédible une seule seconde. Il n'empêche que nous n'avons aucune preuve de quoi que ce soit. Tout ce qu'on a, c'est
la parole de mon père.
S'ensuit un silence pesant, qu'Elena brise en se levant dans un raclement de chaise. Sébastien s'apprête à l'imiter, mais elle lui fait signe de rester assis. Il lui attrape alors le bout des doigts et les serre délicatement, comme pour s'excuser.
« Je vais faire la vaisselle, » promet-il.
« Tu as intérêt ?» réplique-t-elle sur le ton de la plaisanterie.
« J'allais préparer du thé, tu en veux ? Il y a aussi du café, si tu... »«
Un whisky !» dit Sébastien avant de s'étirer.
« Je veux bien un whisky !»
Becker va chercher la bouteille de Springbank dans le placard. « Et la sculpture ?» demande-t-il. « Quand est-ce qu'on récupère Division 2 ?» Sébastien l'écoute à moitié, il est trop occupé à regarder Elena débarrasser. « Sébastien ?»«
Pour l'instant, elle est dans un labo privé, à Londres. Ils ont des installations de pointe et... »«
Quoi ?» s'écrie Becker en abattant la bouteille sur la table. Elena sursaute. Elle lui lance un regard noir, puis abandonne la tasse qu'elle venait de sortir sur le plan de travail et quitte la cuisine sans un mot. Becker et Sébastien l'écoutent monter l'escalier, puis claquer la porte de la chambre. Sébastien lève les mains, impuissant.
« J'ai demandé au conservateur de la Tate moderne de faire venir un expert pour observer l'œuvre sans la dégrader, comme tu me l'as suggéré, et il a accepté. Sauf que l'expert en question a confirmé ce qu'avait écrit l'autre type dans son email. Il s'agit bien d'un os humain, d'une côte. Donc maintenant, on est légalement dans l'obligation d'ouvrir une enquête, au moins histoire d'avoir une datation précise, on n'a pas le choix. »
Après quelques minutes de discussion, ils finissent par trouver un accord. Le test aura bien lieu, mais Becker sera présent pour l'ouverture de la boîte. D'après Sébastien, ce ne sera pas avant au moins plusieurs semaines. D'un point de vue judiciaire, il ne s'agit pas d'une priorité.
« Il va falloir prévenir l'assurance, » dit Sébastien.
« Et Grace as well, » rétorque Becker. Sébastien secoue la tête, un sourire ironique aux lèvres.
« Ça ne la regarde pas, Beck. »
Ils terminent leur whisky et Sébastien prend congé. Becker s'attelle alors à la vaisselle et au nettoyage de la cuisine. Il range tout, ne laissant que la bouteille et son verre. Il se sert un autre whisky, éteint la lumière et reste assis dans le noir, devant la cheminée où ne subsistent que quelques braises. Il n'a pas défendu Grace Aswell, mais à présent, il imagine ce qu'il aurait pu dire à Sébastien. Bien sûr que si, ça la regarde. Et si tu avais discuté avec elle, si tu l'avais écouté parler des empreintes digitales de Vanessa, de son ADN, de son souffle, toi aussi, tu serais de cet avis. Il ne l'a pas défendu parce qu'il ne veut pas se disputer avec Sébastien. Mais il ne veut pas non plus se mettre Grace à dos. Bref, il veut satisfaire tout le monde. Contrairement à Sébastien, lui n'a pas de glace dans les veines. Mais le vrai problème de Becker, c'est qu'il se sent déjà coupable. Il s'est mal conduit par le passé, et il aimerait rétablir l'équilibre. Hélas, il a conscience que ce n'est pas possible. Il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas revenir au temps de ses débuts à l'université, quand il s'était rapproché de Sébastien, non parce qu'il l'appréciait. À l'époque, il ne voyait en lui qu'un énième petit privilégié arrogant et médiocre parmi tous ceux qui infestaient les universités les plus prestigieuses, mais parce qu'il savait qu'il était le fils de Douglas Lennox, le galeriste de Vanessa Chapman. Et il ne peut pas non plus revenir à ce moment où, 3 jours après le décès de Douglas, il a ramené Elena chez lui et a passé l'après-midi au lit avec elle. Il ne peut pas, et de toute façon, il n'en a pas envie. En revanche, il peut faire le travail que Sébastien lui a confié du mieux possible. Il peut œuvrer au succès du musée, montrer la collection sous son meilleur jour, et ainsi honorer l'œuvre de Vanessa et le souvenir de sa mère. Et il y arrivera. Pour Sébastien, pour Grace, et bien sûr, pour Vanessa.
Journal de Vanessa Chapman. J'ai des souris. Des souris, un toit qui fuit, un parquet pourri et de l'humidité. L'installation électrique est criminelle et une odeur immonde émane de la fosse septique. Cela faisait des années que je n'avais pas été aussi heureuse. Le fourneau fonctionne, alors j'habite dans la cuisine et je travaille à l'extérieur dès que possible. Je peins toute la journée. Hier, j'ai eu de la lumière dehors jusqu'à presque 22 heures. Je suis montée jusqu'au rocher des Ris, le point culminant de l'île. Le coucher de soleil était extraordinaire. Le ciel tendre et douillet. D'abord gris pâle et blanc cotonneux, il s'est peu à peu teinté de rose poudré et d'ambre qui fonçait à vue d'œil. D'une nuance orange dont on aurait voulu prendre un quartier. D'un jaune fondant qui ressemblait à celui d'un tournesol de Van Gogh. Je me suis mise à badigeonner ma toile de couleur aussi vite que possible. Le ciel est une chose, la mer en est une autre. Le premier vous défie, la seconde vous confond. Inépuisable, en perpétuel mouvement, elle l'enfle, elle s'arrondit, s'approfondit. Quelle violence! Impossible de la capturer. Je vais tous les jours à la plage pour faire des études de la mer. Jusqu'ici, je ne suis pas satisfaite. J'arrive à discerner la vague, la traction du courant, l'amplification, la hauteur. Mais c'est le moment crucial qui m'échappe. Celui de la rupture, du déferlement. Quand toute cette puissance emmagasinée se déchaîne. Ce moment de chaos terrible. Impossible. Hier, il y a eu une grosse tempête et il pleut à l'intérieur dans la cuisine et le salon. Toute l'électricité a sauté. Je m'éclaire à la bougie. Je ne peux plus me rendre sur le continent et je crois que la météo ne va pas s'arranger ces 2 ou 3 prochains jours. C'est à la fois effrayant et exaltant. Je n'arrive plus à m'arrêter de dessiner. Une chose se tapit dans mes croquis, mais je ne comprends pas encore quoi. Chaque fois que j'essaye de la voir, elle s'échappe. J'ai des biscuits, une bouteille de whisky et assez de tabac pour 2 jours. 3, si je me rationne. Les travaux de la maison ont commencé. D'abord le toit et une nouvelle fenêtre dans la cuisine qui était trop sombre. Ensuite, remplacer le parquet de la chambre et régler ce problème d'humidité. Nouvelle cuisine à poser et mise aux normes de toute l'installation électrique. Puis ce sera le tour de la grange. Large baie vitrée côté sud, agrandissement de l'ouverture côté est. Quand l'immense porte sera poussée au bout du rail, on aura l'impression qu'il n'y a que 3 murs avec de la lumière qui entrera par le sud et l'est, et beaucoup d'air. Je vais devoir utiliser tout l'argent qui me reste de la séparation. Mais comme la maison a été vendue plus cher que prévu, j'y me donne encore 15 000 livres. Et j'ai fini 2 tableaux pour Douglas, sud et marée basse. Plus un autre de la grange avec les bois en arrière-plan que j'ai presque terminé. Je vais lui dire d'en tirer ce qu'il peut. Les rafales sont si violentes qu'elles menacent d'arracher le toit et m'empêchent de peindre dehors. Alors je m'occupe. La forêt regorge de trésors. Des pommes de pin, des graines, des dents, des vieux os. La plage aussi est fertile. J'y glane des cailloux polis par les vagues, roses poudrées, terracotta ou blancs étincelants. Des méduses, des coquillages bien sûr, du varech dont la couleur oscille entre le brun rouge et le vert éclatant. Des morceaux de verre étincelants aux reflets turquoise. À marée basse, on peut marcher pendant presque 1 kilomètre en direction du large. J'en reviens les poches pleines de merveilles. Des tonnes d'idées me viennent. Ces vastes étendues de ciel et mer tout autour de moi sont vivifiantes. Et l'air est si pur. Il se prête à une toute autre esthétique. Fini l'époque où je me sentais cernée par les platanes, les pavillons et les haies. Fini l'époque où j'étais écrasée sous la morne chape de nuages blancs de l'Angleterre. Ici, le ciel est d'un bleu azur miraculeux ou d'un gris acier menaçant, parfois d'un orange somptueux taché de pêche ou de jaune pâle. Les choses avancent. J'ai pris la voiture jusqu'à Carraran pour aller voir le dentiste, qui m'a posé une couronne. Cet après-midi, je dois rencontrer quelqu'un qui a un quad à vendre. Ce serait bien plus pratique pour transporter mon matériel sur l'île. L'homme qui travaille au magasin général du village, Sandy, essaye de me refourguer un bateau. Je crois que je préfère rester dépendante de la marée. De toute façon, je ne suis pas sûre que j'oserais affronter les courants des Ris. Ils sont absolument terrifiants. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne peins que rarement sur la plage. J'ai peur d'être emportée. Douglas est venu jeudi. Il a passé le week-end avec moi. Je l'aime bien, mais il est très exigeant, à l'égard de mon corps comme de mon esprit. Il veut que je commence à réfléchir à une exposition qui me serait exclusivement consacrée. Il s'inquiète qu'on finisse par m'oublier si je me taire ici. Je ne suis pas prête. Je veux prendre mes marques à mon rythme. Profiter de cette sensation de vitalité et de créativité sans me forcer à concevoir, sans être obligée de prévoir. Hier, j'ai eu la visite d'un envoyé du Sunday Telegraph, une idée de Douglas, pour un reportage sur la vie d'artiste. Pas du tout le bon moment pour moi. L'atelier n'est pas terminé et je n'ai rien à montrer, pas à un journaliste en tout cas. D se plaint que je ne veux jamais lâcher mes œuvres. Il croit que c'est une question de confiance, mais il se trompe. C'est une idée de choix. Je céderai mon travail au monde quand je me sentirai prête, pas avant. Je refuse de me laisser presser, harceler ou intimider. Cette époque est révolue. Marc va venir la semaine prochaine. Il va prendre la camionnette pour m'apporter le vieux tour de potier à pied de Frances. Je suis allée récupérer un sac de 20 kilos de porcelaine papier à Carharan. Toi, continue de fuir. Artisan passé hier, devis de réparation 2000 livres. Pas de réponse de J à mes lettres. Vais devoir descendre récupérer mon argent en main propre. Comprends pas pourquoi ce salaud se montre aussi pingre. Célia est pleine aux as. C'est d'ailleurs ce qu'il préfère chez elle. Atelier enfin terminé. Hier, j'ai allumé le four pour la première fois. Je travaille de l'aube au crépuscule, voire souvent jusqu'à tard dans la nuit. Je ne vois pas le temps passer. Je mange à peine, j'écris à peine. La passion me dévore, impression de ne plus avoir besoin d'autre chose. Façonner la terre est un bonheur. Je ne ressens pas l'anxiété que provoque chez moi la peinture. Avec l'argile, rien n'est figé, rien n'est décidé, rien n'est achevé avant l'étape de la cuisson. Je travaille presque exclusivement autour. Je crée des œuvres élégantes à col de cygne, fines et hautes. Je fais des essais de couleurs. Cette île m'a ouvert une toute nouvelle palette. Je respire un air si frais et cristallin qu'il me paraît blanc, et parfois bleu ou violet. Je le visualise comme des aiguilles qui s'enfoncent dans mes poumons. Ça a l'air douloureux, mais ça ne l'est pas. Je me sens plus légère, et je me découvre peu à peu une fluidité qui m'était inconnue. Dave m'a envoyé l'article du Sunday Tell. Superbe photo prise du sommet du rocher d'Eris. Une autre de moi qui fusille l'objectif du regard dans l'atelier. On me décrit comme séduisante, irritable, maussade, peu expansive. Pas grand-chose sur mon travail. Dis que ça m'apprendra. Je n'avais qu'à me montrer plus coopérative. Commentaire de mes amis, lesquels, expliquant que mon travail m'absorbe totalement. Que je n'ai pas de temps à consacrer à autre chose, c'est-à-dire mon couple. Que je suis obstinée, voire monomaniaque. Bref, les poncifs de merde qu'on ressort toujours au sujet des femmes incapables de se dévouer corps et âme à leur famille, ou plutôt à l'aliénation domestique. Vers la fin, on ajoute que j'ai activement contribué à briser le mariage de Marc Bryce. Ce qui est injuste et faux. Je parie que c'est cette connasse d'Isobel qui a dit ça. Elle a toujours été revancharde. C'est la première fois depuis mon arrivée ici que je suis aussi en colère. J'ai appelé D pour l'engueuler et le prévenir que c'est terminé. Je n'accepterai plus jamais de discuter avec un de ces vautours. Après, je suis partie sur la colline. Je suis montée jusqu'en haut du rocher pour admirer la mer et les îles. En me retournant, j'ai vu que c'était marée haute. J'étais à nouveau coupée du monde, avec nulle part où aller et personne pour me déranger. Je suis redescendue en courant à l'atelier. J'ai chassé toutes ces histoires de mon esprit et j'ai retrouvé ma sérénité. Maintenant, dans la cuisine, le soir tombé, je réfléchis. Je voudrais créer quelque chose qui parvienne à transmettre cette sensation d'éloignement des autres. Comment représenter cette cassure nette, douloureuse, mais libératrice? Jim a écrit « Il est furieux que je lave notre linge sale dans les colonnes d'un journal. Menace de venir ici. » J'ai jeté sa lettre et je suis retournée dans mon atelier. Travailler toute la journée, plus penser à lui une seconde. L'obscurité ici est soudaine, totale. Et inhumaine. Quand le brouillard écossais se lève, il ne laisse plus passer la moindre lumière, en dehors de celle du phare de la tête de mouton toutes les 23 secondes. Certains jours, le soleil se lève à peine. Ni lumière ni ombre, et pourtant je meurs d'envie de peindre. Il y a quelques jours, deux ou trois, je suis allée à mon endroit habituel sur la côte sud pour terminer mon tableau de la tête de mouton. La météo était étrange. Il faisait clair quand j'ai quitté la maison, mais le temps que je m'installe, le ciel était devenu jaune, comme s'il y avait du gaz dans l'atmosphère, et la mer, immobile, noire et terrifiante. Ambiance de fin du monde. J'ai pris une nouvelle toile et je me suis mise à peindre avec une frénésie inexplicable. Tout ce que je peux dire, c'est que l'obscurité et la peur semblaient m'aspirer et m'engloutir. À présent, cette toile, que j'ai achevée en quelques heures, est rangée dans la chambre d'amis, et je n'ai pas vraiment envie de la regarder. C'est une présence troublante, obsédante. Une peinture noire.